Bonjour, mes frères. Nous attendons tous l'arrivée du royaume de Dieu. Nous savons que c'est un royaume de 7 ans que nous attendons pour, si vous voulez, donner le coup d'envoi. Le plan magistral de Dieu va bientôt commencer. Et ce royaume de 70 ans, Daniel l'appelle la dernière semaine d'une prophétie de 70 semaines. Nous comprenons que 69 semaines sont terminées. Mais je veux attirer notre attention aujourd'hui sur la seconde moitié du premier royaume. Nous comprenons que dans cette seconde moitié, une période terrifiante sans précédent commencera. Cette période ne ressemblera à aucun autre avant ou après, et elle culminera avec le déversement de la colère de Dieu. Jérémie parle de cette période comme de la détresse de Jacob. Il imagine des hommes avec les mains sur les reins, les décrivant comme des femmes en travail. Les femmes peuvent s'identifier à cela plus que nous, les hommes, mais c'est le genre de douleur que cela va causer. Il décrit des hommes au visage pâle. Dans Matthieu, Christ fait allusion à la nature horrible de ce qui se passera. Ce qui se passera pendant cette période ne ressemblera à rien de ce que le monde a vu ou verra à l'avenir. C'est tellement terrifiant que Christ avertit, 2000 ans à l'avance, les gens de ne s'arrêter pour rien au monde, alors qu'il fuit ce qu'il appelle la grande tribulation. Il avertit les gens de ne pas retourner chez eux pour prendre leurs biens, les biens qui leur sont chers. Il qualifie de malheureuses les femmes enceintes et celles qui allaitent. Il avertit les gens de prier pour que le froid ou un sabbat ne les empêche pas de voler. Pourquoi? Pourquoi? Christ a dit aux disciples, aucune chair ne sera sauvée si ses jours ne sont abrégés. Et frères, l'Apocalypse donne les détails les plus incroyables sur cette période horrible et terrifiante de l'existence humaine. Passez au chapitre 6 de l'Apocalypse. Commençons par le chapitre 6 de l'Apocalypse. Lisons quelques versets qui résument parfaitement ce qui nous attend. Passons maintenant au chapitre 6. Dans le chapitre 4, Jean rapporte cette vision étonnante de la salle du trône de Dieu. Et au chapitre 5, selon l'endroit où il se trouve dans votre Bible, qui pourrait être à la même page où commence le chapitre 6, il est dit que personne n'a été trouvé digne de regarder et d'ouvrir le livre aux 7 sceaux, si ce n'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. C'est donc ici, au chapitre 6, que commencent les 7 sceaux. Rappelez-vous que tout cela se passera pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Au verset 1, le premier sceau est ouvert, ce qui libère le cheval blanc. La fausse religion. Les versets 3 et 4 couvrent le deuxième sceau, le cheval rouge, décrit comme une grande épée de guerre et de tuerie à grande échelle. Au verset 5 et 6, le cheval noir apparaît après l'ouverture du troisième sceau, puis le quatrième sceau, le dernier cheval pâle et verdâtre. Entre eux, frères, un quart de la population de la terre est tuée. Pourquoi? Nous nous dirigeons vers la réponse. Vient ensuite le cinquième sceau. Verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, se référant à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Elles crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Seigneur, saint et vrai, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? Des robes blanches furent données à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos pendant un peu de temps, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, eussent achevé leur mission. Maintenant, attendez. On peut se demander qui a tué ces personnes, qui a tué ses serviteurs et ses frères. Plus important encore, pourquoi ont-ils été tués? La réponse à cette question sera le point central de ce message. Tournons-nous vers Apocalypse 13. Apocalypse 13. Quelques pages. Commençons au verset 9. Cette phrase m'a toujours sauté aux yeux, et je suis sûr qu'il en sera de même pour vous. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Entendre quoi? Je veux dire que c'est une déclaration puissante dans la Bible. On ne la lit pas très souvent. Eh bien, remontons au verset 4 pour en connaître la raison. Ils adorèrent le dragon, Satan, bien sûr, et Satan donna le pouvoir à la bête, poursuit le texte, et ils, un grand nombre de personnes, adorèrent la bête. Verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Au verset 9, il est dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Frères et sœurs, tout être humain dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie adorera la première bête. Et tout repose sur elle. Mais ces gens seront sans excuse. Ils apprendront ce qu'ils doivent apprendre dans la première partie du royaume, de cette prophétie d'une semaine, de ce royaume de 7 ans. Ce qui déclenche tout cela, c'est que Christ met fin au sacrifice. Un tiers de l'humanité sera emmené dans le désert, dans un lieu sûr où ils seront nourris et choyés par Dieu. Les deux autres tiers seront mis à l'épreuve. De quel test s'agit-il? Poursuivons notre lecture. Verset 11. Je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes comme un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exercera devant elle toute la puissance de la première bête, et elle amènera la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle fait de grands prodiges, au point de faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et de séduire les habitants de la terre par les miracles qu'elle avait le pouvoir de faire sous les yeux de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Verset 15. Elle avait le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin qu'elle parlât, et qu'elle fît mourir quiconque n'adorerait pas l'image. J'ai posé la question lors de la lecture du chapitre 6, pourquoi les serviteurs et les frères seront-ils tués? La réponse est claire. Ils refusent d'adorer. Et dans ce cas, ils refusent d'adorer Satan. Ils refusent d'adorer la 7e et la 8e tête. Ils refusent d'adorer l'image. C'est pourquoi ils seront tués. Mais Dieu va détruire un nombre encore plus grand de personnes, mes frères. Pensez au chapitre 6, après le 5e sceau, Christ ouvre le 6e, et il y a un grand tremblement de terre sur la planète. Il est dit que le soleil devient noir et la lune rouge comme le sang. Et nous savons tout cela. Ce qui inaugure le millénaire, le royaume de Dieu de 1000 ans, c'est le jour du Seigneur. Christ ouvre le 7e sceau, qui est couvert par les chapitres 8, 9, 15 et 16. Et il déclenche les 7 fléaux de la trompette. Il déclenche les 7 vœux. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Mais c'est tellement terrifiant que les rois, il est dit, les grands, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres, c'est intéressant, tous supplieront pour que les montagnes tombent sur eux. Mais permettez-moi de poser une autre question. Pourquoi Dieu va-t-il déverser sa terrifiante colère sur des milliards de personnes? Pourquoi détruira-t-il les 2/3 des habitants de la terre? Qu'est-ce qui pourrait pousser Dieu à anéantir des milliards de personnes après une merveilleuse première moitié de règne? J'ai posé la question à mes filles, et elles ont dit ou rappelé avec précision ce dont se souviennent la plupart des chrétiens traditionnels. Les gens prennent la marque de la bête. Si vous interrogez n'importe qui sur l'Apocalypse, c'est l'une des choses qu'il vous indiquera. Recevrez-vous la marque de la bête ou ne recevrez-vous pas la marque de la bête? Mais si je vous disais que la raison de Dieu est similaire à celle pour laquelle ses serviteurs de Brethren sont tués. Passons au chapitre 14. Certains d'entre vous n'ont même pas besoin de tourner la page. Le chapitre commence avec l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, et les 144 000 qui se tiennent sur la montagne de Sion, chantant le cantique nouveau devant le trône de Dieu. Une connaissance puissante que nous avons apprise récemment. Les versets 4 et 5 les identifient comme les prémices de Dieu. Nous venons de vivre la Pentecôte il n'y a pas si longtemps. Leur bouche est intacte devant le trône de Dieu. Au verset 6, on voit un premier ange voler avec l'évangile éternel, en disant ce qui suit. Premièrement, il dit, craignez Dieu. Deuxièmement, il dit, rendez-lui gloire. Et voici le verset 7. Adorez-le. Dieu le Créateur, qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est le premier ange qui crie, et lui est un autre ange, le second, qui dit, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et maintenant, le troisième ange, mes frères, et toute personne un peu familière avec l'Apocalypse et la bête dirait souvent que les gens qui prennent la marque sont détruits. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Verset 9, le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, ce mot en grec est méga, peu importe si vous avez des problèmes d'audition au ciel, vous entendriez cet ange, distinct des deux premiers, une voix méga. Si quelqu'un reçoit la marque sur son front ou sur ses mains, non, je suis désolé, j'ai sauté quelque chose. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur ses mains, il boira du vin, au verset 10, de la colère de Dieu. Verset 11. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Qui? Ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent la marque de son nom. Frères et sœurs, adorez. L'adoration est citée en premier. Recevoir la marque de la bête vient juste après. La personne que les gens adorent a des conséquences indescriptibles, dans un sens ou dans l'autre, au cours du royaume. Cette deuxième partie. Repensez à tout ce que nous avons abordé pendant ces quelques instants. Puis pensez aux choses que je n'ai pas abordées. La description, les détails, et tous ces chapitres, sur les sceaux, la désolation, les fléaux, la famine, la guerre, la mort, les hommes, les femmes et les enfants. L'Apocalypse révèle que la cause d'une grande partie de ce qui se passe pendant les 3 ans et demi se résume à l'adoration. Ce mot grec « culte » apparaît 60 fois dans le Nouveau Testament. Il apparaît plus d'un tiers de ces fois dans la seule Apocalypse, 24 fois. Cela signifie, mes frères, que l'adoration est un thème important, ou vous pourriez dire que c'est le thème de la révélation. Il s'agit de savoir qui adore qui, et ce qui arrive à une personne une fois qu'elle a choisi l'objet de son adoration. Ceux qui vivent pour adorer quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre que le Créateur des cieux et de la terre, mourront pour toujours. Mais surtout, ceux qui adorent Dieu, même s'ils sont tués, vivront éternellement. Est-ce différent pour nous, frères? Pas vraiment. Aujourd'hui, nous allons donc examiner pourquoi l'adoration est vitale pour nos vies. Nous parlerons des deux outils dont nous avons besoin pour adorer Dieu, et nous ajouterons les deux formes, les deux manières, dont nous pouvons adorer Dieu. Pourquoi l'adoration est-elle si vitale pour notre vie? Nous venons de voir pourquoi elle est si vitale pour la vie de ceux qui viendront dans un avenir très proche, des gens que nous connaissons et que nous aimons. C'est pourquoi elle est vitale pour eux, mais pourquoi est-elle vitale pour nous? Passons à Exode 34. Exode 34. La meilleure façon de comprendre ce que nous allons lire est de remonter au chapitre 32. Nous n'irons pas jusque-là, mais juste avant que Moïse ne brise la première série de tablettes, qui se trouve au chapitre 32 de l'Exode, les Israélites commençaient à s'agiter. En fait, ils s'agitaient tellement qu'Aaron, lui aussi, s'est laissé entraîner par ce qui allait se passer. Tout le monde n'était pas sûr de ce qui était arrivé à Moïse. Il est parti depuis longtemps. Alors, plutôt que de prier pour lui et leur situation, ils imaginent une meilleure idée. Voici l'idée qu'ils ont eue. Demandons à Aaron de fabriquer un veau d'or avec leurs boucles d'oreilles. Au lieu de prier pour leur situation, ils se disent, faisons un veau, et construisons-le en or avec les boucles d'oreilles que nous avons. C'est alors qu'il est dit que Moïse s'est enflammé. Il était furieux de ce qu'il voyait. Et il a brisé les tables contenant les commandements de Dieu. Cela se passe au chapitre 32. Tout cela n'est qu'une mise en scène. Certains pourraient accuser Moïse d'avoir des problèmes de gestion de la colère. Si c'était vrai, en se basant sur Apocalypse 14 et les sept sceaux, on pourrait accuser Dieu de la même chose, qu'il a des problèmes de gestion de la colère. Non, mes frères, l'Israël charnel avait des problèmes de gestion de l'adoration. Il en va de même pour les hommes charnels. La question est la suivante, pouvons-nous nous-mêmes avoir des problèmes de gestion de l'adoration? L'exemple d'Israël, comme nous le savons, est un avertissement pour nous. Passons au verset 10 de l'Exode 34, vous devriez y être maintenant. Verset 10, il, se référant au Seigneur, Dieu, dit, voici, je fais une alliance telle qu'il n'y en a pas eu sur toute la terre, ni avec aucune nation, et tout le peuple recherchera l'œuvre du Seigneur, car c'est une chose terrible que je vais faire. Observez ce que je vous ordonne aujourd'hui, voici que je chasse devant vous l'Amoréen, le Cananéen, le Héthien, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. Prenez garde de ne pas conclure d'alliance avec les habitants du pays, en quelque lieu que vous alliez, et de ne pas en faire un piège au milieu de vous. Vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs images et vous abattrez leurs bosquets. Vous n'adorerez aucun autre Dieu. Car l'Éternel, dont le nom est jalousie. J majuscule, mes frères, Dieu se désigne lui-même, il se donne le nom de jaloux, c'est un Dieu jaloux. Verset 15. De peur que vous ne fassiez une alliance avec les habitants du pays. À partir de cette déclaration, Dieu dit, voici un avertissement. Je suis un Dieu jaloux. Vous n'en adorerez pas d'autres, sinon vous ferez alliance avec les habitants du pays, qui se prostitueront après leurs dieux et leur offriront des sacrifices. L'un d'eux t'appelle, et tu manges de son sacrifice, verset 16, et tu prends leurs filles pour tes fils, et leurs filles se prostituent à leurs dieux, et tes fils, tes enfants se prostituent à leurs dieux. Verset 17. Ne vous faites pas de Dieu en fonte. Il s'agit d'un commandement répété dans les 10 commandements que Dieu a donnés au mont Sinaï. Frères et sœurs, il est relativement simple de détecter qui ou ce que nous adorons. Pourquoi est-ce vital? L'adoration dans nos vies. Dieu a averti Israël qu'il suivrait et sacrifierait pour toute personne qu'il vénère. Je crains, mes frères, qu'il en soit de même pour nous, pour chacun d'entre nous. Permettez-moi de le dire clairement. Nous suivrons et nous sacrifierons pour celui que nous vénérons. C'est tout à fait logique. Pas de différence pour Israël, pas de différence pour nous, l'Israël spirituel. Qui pense que l'adoration n'est pas vitale? Le Dieu qui ne change jamais jaloux. C'est un Dieu jaloux. Nous ne sommes pas finis. Pourquoi l'adoration est-elle si vitale pour nous, frères? pas seulement pour nous éviter de suivre et de sacrifier pour quelque chose ou quelqu'un que nous adorons en dehors de Dieu. Passons à 2 Rois, chapitre 17. Il y a d'autres dangers, d'autres raisons pour lesquelles il est vital que nous adorions Dieu. 2 Rois, chapitre 17. Sinon, pourquoi l'adoration de Dieu est-elle si vitale? Chaque être créé par Dieu dans le ciel, pensez aux anges, pensez aux démons. Satan lui-même, autrefois Lucifer. L'archange Gabriel. Michaël. Ils comprennent ce que je viens de dire. Ils comprennent qu'ils suivront et se sacrifieront pour celui qu'ils adorent. Ils l'ont compris. Pourquoi Dieu a-t-il arraché Israël du pays, le séparant de Juda et le perdant jusqu'à ce jour? Pourquoi les a-t-il fait devenir captifs sous le roi assyrien? Leur identité est perdue jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Pourquoi? Verset 5. Le roi d'Assyrie, vous pouvez lire plus loin, Hosha monta à travers le pays jusqu'à Samarie et l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, il prit Samarie et emmena Israël en Assyrie. Il le plaça à Alaïa-Abor, près du fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Frères et sœurs, Israël, depuis le temps que nous lisons ici, a été perdu. Les versets suivants expliquent pourquoi. Verset 9. Les enfants d'Israël firent secrètement des choses injustes envers l'Éternel, leur Dieu. Frères et sœurs, le cœur, ou l'esprit, est l'endroit le plus secret où l'on puisse faire quoi que ce soit. Mais un jour ou l'autre, ce qu'il y a là-haut remontera à la surface. Il se manifestera. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Regardez, ils ont construit des hauts lieux dans toute leur ville. Et ils ont dressé des images au verset 10. Vous allez au verset 23. Israël fut transporté de son pays en Assyrie, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Verset 34. Jusqu'à ce jour, toujours au présent, ils agissent selon les anciennes coutumes. Ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne suivent ni leurs lois, ni leurs ordonnances, ni la loi et les commandements que l'Éternel avait prescrits aux enfants de Jacob, qu'il appela Israël. 5e verset, le Seigneur avait conclu avec eux une alliance, et il leur avait donné cet ordre, « Vous ne craindrez point d'autres dieux, et vous ne vous prosternerez point devant eux. » Frères et sœurs, en hébreu, cela signifie « adorer », « chacha ». Nous allons définir cela tout à l'heure. Ne vous prosternez pas devant eux, ne les servez pas et ne leur offrez pas de sacrifice. Encore un sacrifice. Mais le Seigneur qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Verset 41. Ces nations, les pays israélites d'aujourd'hui, ont servi leurs images taillées, est-il dit, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, leurs petits-enfants, comme leurs pères, jusqu'à ce jour. Rien n'a changé dans les pays israélites d'aujourd'hui. Les Israélites adorent tout aujourd'hui. Ils adorent même le Dieu musulman, Allah, et ont pris l'habitude de l'adorer. Dans les nations israélites, vous trouverez des gens qui adorent Bouddha, Shinto, Brahma, Shiva, Vishnu. Et, bien sûr, un grand nombre d'Israélites affirment qu'ils adorent Jésus. Je voudrais m'attarder un instant sur eux. Les soi-disant chrétiens pratiquent le culte de la manière la plus absurde qui soit. J'en ai été témoin. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Ma femme et moi, au cours de notre voyage, avons vu de nombreux types d'adorations absurdes. Vous pouvez regarder en arrière et en rire, mais c'est vraiment, mes frères, très sérieux. Il n'y a rien de spirituel dans un concert de rock chrétien, Rien. Je peux vous assurer que Dieu n'y cherche pas d'adorateur. Des jeans déchirés, des boucles d'oreilles sur les hommes, des chaînes, des t-shirts, des bousculades, qu'il se mettait devant l'endroit où se trouvait le pupitre. Imaginez qu'on enlève toutes ces chaises et que tout le monde saute pour Jésus, rebondissant les uns contre les autres. C'est absurde. Et ils pensent qu'ils adorent Jésus. Ce sont des esprits charnels à l'œuvre, conduits par des émotions et des impulsions. Ils louent un faux Jésus et adorent un faux Dieu. Les chorales baptistes ou pentecôtistes se balancent d'un côté et de l'autre dans une fantastique démonstration de talent. Certains d'entre eux sont extraordinairement doués pour ce qu'ils font. Cela ne plaît pas non plus à Dieu. Comment puis-je le savoir? Comment pouvons-nous le savoir? Que nous dit Romains 8? Car l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, parce qu'il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et qu'il ne peut l'être. Regardez attentivement la vie de ces gens, ce n'est pas parce qu'ils chantent de belles chansons, ce n'est pas parce qu'ils sont extrêmement talentueux dans ce qu'ils font, qu'ils obéissent au vrai Dieu, et encore moins qu'ils servent le vrai Dieu. Je dis, Monsieur Hook, c'est puissant, c'est vrai, mais cela ne s'applique pas à nous. Nous ne faisons rien de tout cela. Il n'y a pas de mosh pit ici au quartier général. Nous ne venons pas au culte en t-shirt et en jeans déchirés. Matthieu chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Une grande partie de notre christianisme, mes frères, consiste à ne pas être hypocrite. Dans Matthieu 15, Christ s'adresse aux siens, les juifs, en particulier aux chefs religieux juifs. Mais ce que Christ a cité d'Ésaïe s'adressait à l'ensemble d'Israël. Encore une fois, regardez les pays israélites. Certaines des choses que je viens de décrire. Mais y a-t-il là un avertissement pour nous? Regardons le verset 7. Vous, les hypocrites, vous avez bien prophétisé. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, en disant, « Ce peuple s'approche de moi par la bouche, et m'honore des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'adore. » Quand je lis cela, il est facile de voir les erreurs de ces soi-disant chrétiens et de ces groupes chrétiens, en regardant leur vie. Mais je me demande, et je le pense vraiment, si mon cœur est plus proche de quelque chose ou de quelqu'un que de Dieu. Permettez-moi de reposer la question. Mon cœur est-il plus proche de quelque chose ou de quelqu'un que de Dieu? Ce n'est pas parce que je chante de beaux chants chrétiens ou des hymnes avec vous tous, frères, que j'adore vraiment Dieu, n'est-ce pas? Je dois examiner ma vie parce qu'elle reflétera si mon cœur ou mon adoration est proche de Dieu ou orientée vers Dieu. Cela révélera si j'adore, si je prends soin, si je chéris quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. Permettez-moi donc de vous demander si nous chérissons ou si nous chérissons secrètement nos mariages, nos épouses ou nos maris, plus que Dieu? Non. Bien sûr que non, n'est-ce pas? D'accord. Les relations que nous entretenons, peut-être avec nos enfants ou nos petits-enfants, nous importent-elles plus que celles que nous avons avec Dieu? Non. Non. D'accord. Qu'en est-il de nos animaux de compagnie? Il y a des gens qui aiment leur animal de compagnie plus que les membres de leur famille, et si c'est le cas, Dieu est invisible. La famille, nous pouvons la voir, la serrer dans nos bras et la toucher, et il y a des gens qui aiment leurs animaux de compagnie, qui s'en occupent plus qu'ils ne le font pour les membres de leur propre famille. Je pense donc que l'idée est claire. Nous nous soucions davantage de quelqu'un que nous pouvons voir que de Dieu, qui est invisible, mais nous vénérons les animaux de compagnie plus que nous ne le faisons, ou nous aimons nos animaux de compagnie plus que les personnes que nous pouvons voir. Vous comprenez l'équation. Elle s'explique d'elle-même. Frères et sœurs, nous pouvons permettre à nos cœurs d'adorer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. Si ce n'est pas notre mariage, nos enfants ou nos animaux de compagnie, alors peut-être notre carrière. Si ce n'est pas notre carrière, alors notre voiture. Si ce n'est pas nos voitures, ce sont nos vêtements. Les vêtements que nous portons. Si ce n'est pas nos vêtements, ce sont nos téléphones portables. Il y a beaucoup de cela dedans, alors autant ajouter de l'argent. Il y a des gens qui ont, s'ils n'ont pas de téléphone portable, de voiture ou de vêtements, ils ont une réserve d'argent. Frères et sœurs, tombons-nous dans ce piège? Parce que là où se trouve notre cœur, c'est là que se trouve notre dévouement, notre sacrifice, notre service, notre obéissance. Une personne qui a passé des années avec nous a récemment été démise de ses fonctions. Au cours de ce processus, il a révélé, presque avec une certaine fierté, sa passion pour les 2 motos et les 11 voitures de collection qu'il avait secrètement cachées. Il vivait pour rouler, si je puis dire. Il a épousé secrètement une femme en dehors de l'église. Au cours des années passées avec nous, son adoration était vaine. Son cœur était loin de Dieu. Frères et sœurs, cet homme s'adore lui-même en fin de compte. Pas seulement ses Harley, pas seulement ses voitures, et sa femme. Vraisemblablement, sa femme est en 3e position. Je ne suis pas sûr de savoir ce qui est le plus important, les motos ou les voitures, mais j'oserais dire que sa femme n'est qu'une lointaine 3e place. Ou tout autre jouet de garçon, ou de fille d'ailleurs, mes frères, sur lequel nous pouvons faire une fixation. Il n'y a rien de mal à se marier. Il n'y a rien de mal à acheter une voiture, à poursuivre une carrière, à acheter de beaux vêtements ou à avoir des animaux de compagnie. Dieu ne nous a pas chassés du monde ni l'a chassé le monde de nos vies. Il nous a donné le pouvoir de ne pas l'adorer, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Jésus a demandé au Père de ne pas nous retirer du monde, mais de nous éloigner du malin, ce qui nous ramène au dragon, ce qui nous ramène à Satan. Frères et sœurs, Satan trouve sa satisfaction dans le fait d'être adoré. Il y aspire. À quel point le désire-t-il? Matthieu, chapitre 4. Revoyons quelques chapitres. Matthieu, chapitre 4. Rappelons que Satan s'en prend à 3 reprises au Christ après qu'il a jeûné, sans eau ni nourriture, pendant 40 jours. Nous examinerons la 3e tentation dans ce récit. C'est pour ces raisons, frères, que j'ai dit tout à l'heure que l'adoration est vitale pour notre vie. Si ce n'est pas le cas, beaucoup de choses en dépendent. Parce que beaucoup, souvenez-vous, le salut de l'humanité, dans ce récit, ces tentations que Satan a lancées au Christ, l'existence humaine en dépendait. Elle dépendait de ce qui était sur le point de se produire. Le verset 8, encore une fois, il est dit ici, le récit de Luc est classé en 2e position, ici il est classé en 3e position. Le diable l'emmène sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, à toi, le Dieu de ce monde, si tu te prosternes et m'adores. » Or, comme il est le père du mensonge, il aurait pu faire miroiter à Christ un mensonge, et il n'aurait pas eu l'intention de lui donner quoi que ce soit. Mais à première vue, il semble qu'il était prêt à renoncer à tout cela, juste pour être adoré. Être adoré est si important pour Satan qu'il a tenté un membre de la famille de Dieu de l'adorer, de le faire. Pensez-y. Pour que quelque chose tente Jésus-Christ, parce que c'était une tentation, pour que quelque chose le tente, cela a dû être extraordinaire, ce que Satan lui a montré. Semblable à ce que nous verrons dans le royaume de Dieu, au millénaire et pour toute l'éternité. Et Satan voulait gouverner cela, et veut le gouverner. Pourquoi Satan voudrait-il être adoré? Verset 10. Jésus dit alors, « Va-t'en, avance, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Satan a vu ce qu'est le vrai culte, depuis que Dieu l'a créé. Il sait ce qu'est l'adoration. Tout être spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'exception des démons, adore Dieu. Satan voulait s'asseoir sur le trône de Dieu, je pense que nous sommes tous d'accord, afin que tout le monde l'adore comme Dieu. Pourquoi? Frères et sœurs, Satan sait depuis longtemps ce que, je l'espère, nous comprenons mieux aujourd'hui. Les gens ne se contentent pas de suivre et de se sacrifier pour celui qu'ils adorent. Les gens de tous les âges obéiront et serviront également celui qu'ils adorent. Par exemple, les athlètes professionnels, les acteurs, les artistes, les influenceurs sur Internet sont aujourd'hui des idolâtres de premier plan. Les gens adorent tout et n'importe qui aujourd'hui. Ils n'y pensent pas dans les termes dont nous parlons, mais c'est pourtant ce qu'ils font. Ils adorent, idolâtrent ces personnes. Les gens ne suivent pas les gens sur Facebook ou X. Ils se prostituent après les gens sur Facebook et X. Ce sont des idoles. Nous avons des programmes, des émissions de télévision, American Idol, British Idol, Australian Idol, Italian Idol, et j'en passe, Russian Idol, des programmes conçus pour trouver la prochaine idole que les gens pourront adorer. Les jeunes suivent et sacrifient les milliers de dollars de leurs parents pour aller voir un artiste danser, chanter et se trémousser sur une scène pendant 2 heures. Mais une fois que les parents ont payé pour qu'ils suivent leurs artistes préférés, ces mêmes jeunes, ces mêmes enfants obéissent et servent tout le monde sauf leurs parents. Parce que nous obéirons et servirons celui que nous adorons. Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Satan cherche des adorateurs pour ses raisons vitales. Et peut-être aussi parce que Dieu cherche la même chose. Il cherche des adorateurs pour lui-même. Frères et sœurs, il sait que nos vies et la manière dont nous les vivons ne font que révéler ce que nous adorons ou la personne que nous adorons. Car quelle que soit la personne que nous adorons, nous la suivrons, nous nous sacrifierons pour elle, nous lui obéirons et nous la servirons. L'adoration a un impact sur tous les domaines de notre vie. En Jean 4, nous reprenons le moment où Jésus quitte la Judée et se dirige vers la Galilée. Sa route le conduit à travers la région de Samarie. Verset 5. Il arriva à la ville de Samarie appelée Sichar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Un récit très familier. Le puits de Jacob se trouvait là, et Jésus, fatigué par son voyage, après avoir parcouru une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine de kilomètres, s'assit là, sur le puits. Il était donc fatigué. Il était épuisé. Vers la 6e heure, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Nous connaissons ce récit. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 8, « Car ses disciples allaient à la ville pour acheter des vivres, alors la femme de Samarie lui dit, « Comment se fait-il que toi, qui es juif, tu me demandes à boire ?» À moi qui suis une femme de Samarie, car les Juifs ne traitent pas avec les Samaritains. Passez maintenant au verset 18. Après que la femme aperçut qu'il est un prophète parce qu'il sait qu'elle est avec son 6e homme, qui n'est pas son mari, alors que les 5 précédents l'étaient, nous arrivons au verset 20. Remarquez qu'elle change de sujet pour parler d'adoration. Nulle part dans le récit il n'est dit que Christ a abordé le sujet de l'adoration, c'est elle qui l'a fait. Peut-être était-elle inspirée à ce moment-là. Peut-être charnellement, mais inspiré à adorer l'homme qui vient d'exposer sa vie entière et les paroles d'espoir qu'il vient de lui adresser. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et toi, tu dis que c'est à Jérusalem que les hommes doivent adorer. Il est probable qu'elle répétait ce qu'elle avait entendu depuis son enfance de la part des Juifs. Encore une fois, il n'est pas dit que Christ ait mentionné le culte à un moment ou à un autre ou qu'il ait fait cette déclaration. Souvenez-vous que le mot adoration apparaît 60 fois dans le Nouveau Testament, dont 24 fois dans l'Apocalypse. Vous savez combien de fois dans les 5 versets que nous lisons? 9 fois. Nous venons d'en lire 2. Ce mot grec est proskuneo. Proskuneo. C'est un mot puissant. Il signifie s'accroupir, se prosterner, au sens propre ou figuré, en commençant par notre esprit, notre cœur, nous y viendrons, en hommage, en révérence, en adoration. Vous savez, ce terme est dérivé de deux mots. Le premier mot est protoward, et l'autre est quo. Il signifie chien. Cela signifie donc embrasser comme un chien qui lèche la main de son maître. C'est ce que signifie l'adoration par définition en grec. Il ne s'agit pas de petits mots. Il lui dit, au verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que tu adoreras le Père. Vous adorez ce que vous ne savez pas. » Important. Nous ne savons pas pourquoi ni ce que nous adorons, car le salut est dans les mains des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant que les vrais adorateurs, c'est la seule fois dans toute la Bible que ce mot existe. Une seule fois. C'est si unique. Les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, car c'est ce que le Père recherche pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Frères et sœurs, quiconque veut comprendre ce que Dieu pense de l'adoration, sans parler de ce à quoi elle ressemble, doit commencer ici. L'échange entre Christ et la Samaritaine révèle deux outils. Nous avons besoin d'adorer Dieu. Pas un, deux. Rappelez-vous que j'ai dit que nous utilisions deux outils pour adorer Dieu, de deux manières. Christ a dit que nous avons besoin de l'Esprit et de la vérité pour être de véritables adorateurs de Dieu. Ce sont les outils dont nous avons besoin pour adorer Dieu. Ce ne sont pas les formes par lesquelles nous adorons Dieu. C'est une distinction importante. Nous y reviendrons dans un instant. Philippiens, chapitre 3. Commençons par le premier outil. Philippiens, chapitre 3 et verset 1. Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous écrire les mêmes choses qu'à moi, mais pour vous, c'est une sécurité. Cela veut dire que c'est à l'épreuve de l'échec, ce que je vous ai répété, cela vous empêchera d'échouer dans la vie. Méfiez-vous des chiens, méfiez-vous des mauvais ouvriers, méfiez-vous de la concision, car nous sommes les circoncis qui adorent Dieu dans l'esprit. Réjouissez-vous en Jésus-Christ et n'ayez pas confiance en la chair. Le premier outil d'un vrai adorateur est l'esprit. Il n'y a rien de sorcier ici. L'apôtre Paul confirme les paroles du Christ. Il s'agit d'un second minuscule. Il est utilisé ici, et c'est le même mot que Christ a utilisé dans Jean 4. Les vrais adorateurs sont créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il nous a donné un esprit avec lequel son esprit travaille dans cette zone de notre cerveau, mes frères. Comprendre la véritable adoration peut être un peu difficile parce que cette zone de notre cerveau contrôle aussi nos émotions et nos sentiments, nos impulsions. Mes frères, nous n'adorons pas sur la base de sentiments ou d'émotions, même si nous pouvons éprouver des sentiments et des émotions lorsque nous adorons Dieu. Mais l'adoration de Dieu ne sera jamais entravée ou inhibée par nos émotions ou nos sentiments. Permettez-moi de le répéter. Nous n'adorons pas avec nos émotions et nos sentiments, mais nous pouvons éprouver des sentiments et des émotions, Dieu nous les a donnés, lorsque nous adorons Dieu avec notre esprit. Le monde prend les choses à l'envers, car Dieu a donné à chacun, à tous les êtres humains de la planète, un esprit. Ce qui nous distingue, c'est la façon dont nous utilisons cet outil. Mais notre esprit, comme je l'ai dit, est le premier outil, notre esprit. Nous n'avons pas besoin d'approfondir ce point. C'est assez simple. Le deuxième outil est nécessaire. Ou alors, c'est inutile par rapport à l'adoration de Dieu. Pensez au tricot. Certains d'entre vous qui savent ce qu'est le tricot ou qui ont déjà tricoté, pour tricoter, il faut deux aiguilles. Ce n'est pas du crochet. Je ne peux pas faire la comparaison avec le crochet car je pense que le crochet ne nécessite qu'un seul crochet. Mais pensez aux outils dont nous avons besoin comme les aiguilles à tricoter. Essayez de faire un pull avec une seule aiguille à tricoter. Ce sera un désastre. Vous avez besoin de cette deuxième aiguille ou de ce deuxième outil pour adorer Dieu. Christ l'a dit. Nous ne pouvons pas vraiment adorer Dieu avec seulement notre esprit. La version du monde de l'adoration est le crochet. Ils n'ont qu'une aiguille et ils ne l'utilisent même pas correctement. Passez au psaume 138. Psaume 138, au verset 2. Je me prosternerai devant ton saint temple, et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as élevé ta parole au-dessus de tout ton nom. Ces mots, car, si vous les lisez lentement, sont différents. Le premier et le troisième pour, une préposition, sont identiques, et cette préposition est le préfixe qui. En d'autres termes, qui signifie pour autant, ou dans la même mesure, alors que, ou parce que, je t'adorerai dans ton saint temple et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté, parce que tu as élevé ta parole au-dessus de tout ton nom. C'est pour cela que je vais le faire. Mais le deuxième pourrait être très différent. Il s'agit de la préposition al, qui signifie selon ou toucher. Le roi David adorait selon la vérité de Dieu, en la touchant. Pour ta vérité, touchant ta vérité, je t'adore selon ta vérité. Le deuxième outil, mes frères, est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans esprit, et vous ne pouvez pas adorer Dieu sans sa parole, sans sa vérité. C'est la clé qui ouvre la capacité d'adorer le Père. La parole de Dieu. Pensez à toute la vérité et à la connaissance que nous avons acquise sur le Père. Et la valeur que cela a pour nous de l'adorer, parce que vous ne pouvez pas l'adorer sans la vérité. Voulez-vous parler de l'un des plus grands joyaux que la série des prophéties nous a apporté? La compréhension de qui est le Père, la vérité sur qui il est. Comment pouvons-nous adorer quelque chose ou quelqu'un que nous ne connaissons pas? Frères et sœurs, nous adorons ce que nous connaissons. Je vous garantis que l'homme qui a été destitué pourrait vous dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les motos Harley Davidson et sur chacune des 11 voitures de collection qu'il possédait secrètement. Et il pourrait vous en dire beaucoup sur la femme qu'il a épousée en dehors de l'Église. Car, mes frères, plus nous en savons sur quelque chose ou quelqu'un, plus nous l'adorons. Et plus nous les vénérons, plus nous les connaissons. C'est un cycle merveilleux lorsqu'il s'agit de Dieu, le Père. Plus nous le connaissons, plus nous l'adorons. Plus nous l'adorons, plus il se révèle à nous. Nous adorons le Père parce que nous le connaissons en vérité. Mais soyons plus précis. Quelles écritures, parce que la vérité fait partie de l'adoration. Quelles sont les écritures qui conviennent le mieux à l'adoration? Colossiens, chapitre 3. Je pensais que j'allais passer à l'Ancien Testament. Peut-être. Passons à Colossiens 3, car l'apôtre Paul y fait une déclaration utile. Au verset 16, Colossiens 3, 16, que la parole du Christ habite en vous, qu'elle vous habite richement en toute sagesse. C'est une déclaration puissante. Il veut que la parole de Dieu nous habite. Mais où la parole de Dieu nous habite-t-elle? Dans notre esprit, bien sûr, dans notre cœur. Quels sont les mots suivants qu'il prononce? Enseignez et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, en chantant au Seigneur avec grâce dans vos cœurs. Laissez la parole habiter en vous. Il s'adresse maintenant principalement aux membres laïcs, aux Colossiens qui sont des membres laïcs. Cette phrase, « les uns les autres », est réflexive. C'est évident. Mais pourquoi est-ce important? Vous savez ce que l'on traduit le mieux par ce mot? Lui-même, elle-même, toi-même. Au singulier, soi-même. Relisez-le, en vous enseignant et en vous avertissant vous-même. C'est ce que cela signifie. Cela ne signifie donc pas nécessairement que nous devrions nous enseigner et nous exhorter les uns les autres par des psaumes. Je ne vais pas chanter pour vous enseigner des choses. Ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie que lorsque je regarde les psaumes, je m'enseigne à moi-même. Je me réprimande moi-même. Cela peut signifier que, par exemple, lors de la dernière nouvelle lune, l'une des femmes ici au siège a chanté un beau chant spirituel. Ce qui l'a rendue beau et spirituelle, c'est qu'elle est une fille de Dieu qui a un esprit et qui a la vérité de Dieu, et qui a l'esprit de Dieu à l'œuvre, l'esprit de vérité. Elle a chanté « Je marcherai avec Dieu ». La musique m'a inspiré. C'était une musique merveilleuse, une belle musique, mais les paroles ont ému certains jusqu'aux larmes. Et les paroles m'ont appris. Un psaume spirituel, un hymne, et les psaumes, mes frères, nous enseignent. En écoutant attentivement, en retournant étudier ces paroles, il y avait 5 leçons, un minimum de 5 leçons dans ce psaume de 3 minutes. Je marcherai avec Dieu, parce que si et quand nous le faisons, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de peur. Il ne me fera pas défaut. Il entendra les mots que je prononce, et je ne marcherai jamais seul. Il s'agit d'un psaume de 3 minutes, d'un chant spirituel de l'un des membres du peuple de Dieu. Il se trouve qu'elle a été le canal par lequel Dieu m'a enseigné dans ce cas précis. Les chants spirituels peuvent nous enseigner, frères, cela ne fait aucun doute. Mais je veux me concentrer sur un point plus important. Les psaumes sont les écritures les mieux adaptées pour nous permettre d'adorer et de le faire de deux manières. Je peux vous assurer que nous ne sommes pas tous de grands chanteurs. Ne demandez pas à ma femme. Elle doit se tenir à mes côtés à chaque culte et endurer 6 hymnes. Ma voix. Non, je pense que je suis un bon chanteur. Nous ne sommes pas tous de grands chanteurs, mais nous pouvons tous être de grands adorateurs, quelle que soit notre voix. Que nous chantions ou que nous pratiquions la deuxième forme d'adoration, vous la connaissez probablement déjà. Nous adorons en utilisant notre esprit et la parole de Dieu par le chant et la prière. Concentrons-nous donc sur la prière. Elle est plus importante que le chant. Car la première aide la seconde. Mieux vous adorerez dans la prière, mieux vous adorerez dans le chant. Ce n'est pas l'inverse. Vous pouvez être un grand chanteur, et vous pouvez adorer en chantant. Cela ne fait pas nécessairement de vous un grand adorateur dans la prière. Et si je me souviens bien, Christ n'a jamais instruit les disciples spécifiquement sur le chant, mais il les a instruits sur la prière. Christ a dit à ses disciples de prier de la manière suivante. Notre Père qui est aux cieux, quels sont les mots suivants, ou la phrase suivante? Que ton nom soit sanctifié. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu dans la prière, ce dont nous avons besoin, ou peut-être ce que nous voulons, il nous est demandé de faire une place pour exprimer tout ce qu'il est et tout ce qu'il représente pour nous dans la prière. Passons au psaume 95. Psaume 95. Et si vous voulez bien tourner vos recueils de cantiques à la page 51, vous allez voir, si vous regardez dans votre recueil de cantiques, probablement là, au psaume 95, le 51e cantique de nos recueils de cantiques vient du psaume 95, qui a été écrit par le jeune frère de Monsieur Armstrong, Dwight Armstrong. Verset 2, dans le psaume 95. Approchons-nous de sa présence avec des actions de grâce et faisons-lui entendre des cris de joie. Avec quoi? Avec des psaumes. Et si nous regardons ici dans le recueil de cantiques, c'est certainement quelque chose que nous chantons. Mais je pensais que nous parlions de la prière, Monsieur Hook. Cela nous exhorte presque à aller devant Dieu avec des psaumes. Mais on a l'impression qu'il parle de chants, n'est-ce pas? D'accord, c'est vrai. Mais au verset 3, « Car l'Éternel est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux, les profondeurs de la terre sont dans sa main, la force des collines est aussi la sienne. » Tous les attributs, les nombreux attributs de Dieu sont exposés au verset 3, puis au verset 5 et au verset 4. « Les profondeurs de la terre sont entre ses mains, la force des collines est à lui. » Verset 5. La mer est à lui, il l'a faite, et ses mains ont formé la terre sèche. De toute évidence, son esprit se remplit de tous ses attributs de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire. Verset 6. Venez, adorons, prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur, notre chef, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis de sa main. La musique vous vient probablement à l'esprit en ce moment même. Vous la chantez. Venez, chantons pour Dieu. Nos voix joyeuses s'élèvent. Ce n'est pas mal. Le mot culte, en hébreu, est shasha, ce qui signifie se prosterner. En particulier pour rendre hommage à la royauté ou à Dieu, s'accroupir, tomber. Quand nous prosternons-nous, nous accroupissons-nous, nous mettons-nous à plat ventre et à genoux devant Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous prions, et c'est là que cela s'ajoute. Nous ne le faisons pas lorsque nous chantons, mais cela s'ajoute là, se prosterner, s'agenouiller. Il s'agit d'actions physiques, d'actions littérales. Certes, nous pouvons le faire dans nos cœurs lorsque nous sommes debout pendant les services, lorsque nous terminons par un hymne final, nos cœurs se prosterneront, nos esprits se prosterneront vers Dieu. Mais il s'agit littéralement de notre temps privé, de notre vie de prière. La prière est donc le moyen ultime d'adorer Dieu en privé. Que vous soyez dans l'Église depuis longtemps ou depuis peu, combien d'entre vous trouvent parfois difficile d'exprimer leur gratitude à Dieu par des mots pendant qu'ils prient? C'est mon cas. J'ai parfois des difficultés. Vous arrive-t-il de dire, « Je ne sais pas quoi dire ni comment le dire dans cette première partie de la prière. Mes mots sont bien en deçà de ce que je ressens pour lui et de ce qu'il représente pour moi. » Il peut être difficile de trouver les mots pour exprimer à Dieu ce qu'il représente pour vous. Car c'est ce qu'est l'adoration. L'adoration consiste essentiellement, en un mot, à exprimer à Dieu ce qu'il représente pour vous. Pas ce qu'il peut faire ou ce que nous voulons qu'il fasse. Ce sont des demandes. Elles ont leur place. Comment trouver les mots justes? Paul nous dit d'utiliser les psaumes. Je compare cela au choix d'une carte de fée des pères. La fée des pères approche. C'est juste à la porte. Avant d'en choisir une, j'en lis plusieurs. J'examine attentivement si les mots décrivent bien mon père et ce que je ressens pour lui. C'est probablement l'une des rares fois où je passe autant de temps dans un magasin d'alimentation. Je lis carte après carte. La dernière chose que je veux, c'est envoyer une carte à l'eau de rose qui ne décrit pas ou ne reflète pas ce qu'est mon père pour moi. Il le saura. Il le saura. Il saura si c'est une carte à l'eau de rose. Ah, c'est juste quelque chose qu'il a sorti de l'étagère. Alors je prends le temps. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous tromper en utilisant les psaumes. Maintenant, quel psaume devrais-je choisir, monsieur Houg, pour adorer, pour apprendre à adorer Dieu pendant la prière ou le chant? Nous avons beaucoup d'exemples pour cela. Quelle fête des pères dois-je choisir? Quelle carte de fête des pères contient les mots? Impossible de se tromper. Il y a 150 psaumes, des cartes de fête des pères, si vous voulez, parmi lesquelles choisir. Cherchez et vous trouverez. Mais certains se prêtent mieux à l'amélioration de votre culte et de votre prière. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Voici une façon de commencer. Choisissez un mot qui décrit Dieu. Par exemple, adoration. Commencez par là. Les psaumes 5, vous pouvez les écrire, 22, 29, 45, 66, 72, 81, 86, 97, 99. Les psaumes 106, 132 et 138 contiennent tous le mot adoration. Choisissez n'importe lequel d'entre eux pour commencer. Vous savez ce qui va se passer? Dans ces psaumes, vous trouverez d'autres mots décrivant Dieu. Miséricorde, 6 fois dans ces psaumes. Sainteté, 11 fois. Beauté, 9 fois. Tous décrivent Dieu directement. Force, je ne saurais dire combien de fois. L'amour bienveillant, 21 fois. Autant de descriptions de ce qu'est Dieu et de ce qu'il représente pour nous. Vrai, juste, j'ai arrêté de compter. Cela vous amène à d'autres psaumes, car vous y trouverez d'autres mots, d'autres attributs. C'est un voyage apparemment sans fin, mes frères, que de découvrir qui est Dieu et de nous donner les mots dont nous avons besoin dans notre temps de prière. Chaque fois que j'ai cherché, j'ai trouvé davantage. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mot pour préparer le reste de votre prière. Avez-vous besoin de guérison? Rendez-lui hommage parce qu'il est guérisseur. Vous trouverez cela dans les psaumes 103, 107 et 147. Qu'en est-il de la délivrance des épreuves financières? Les épreuves financières délivrent. C'est ce que l'on trouve dans les psaumes 40 et 70. Qu'en est-il de la protection contre le mal, la maladie et les ennemis? Dieu se décrit ou les psalmistes décrivent Dieu comme un bouclier pour leur vie. Psaume 3, 28, 33, 119. Si Dieu peut se dire jaloux, il sait que nous pouvons l'appeler ou lui attribuer, et l'adorer pour les attributs qu'il porte lui-même. Il est notre bouclier. Il est notre libérateur. Il est notre guérisseur. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de l'esprit ou de la vérité sans considérer en même temps la méditation. La méditation nous aide à adorer Dieu, et plus particulièrement à méditer sur ce que les psaumes nous enseignent sur Dieu. Considérez les psaumes comme un dictionnaire complet de toutes les caractéristiques de Dieu, une mine de mots qui le décrivent et qui peuvent être utilisés pour l'adorer pendant la prière. Dans l'article de l'Église sur la méditation, il est suggéré de consacrer une heure à la prière, une heure à l'étude de la Bible et une heure à la méditation. Cela fait 3 heures. Vous pouvez faire cela un jour de sabbat, voire un jour chômé. La plupart d'entre nous ne travaillent pas le dimanche, mais cela ne fait pas de nous des adorateurs du dimanche, mes frères. Mais le reste de la semaine, Je n'ai pas 3 heures pour faire ces choses, mais vous pouvez trouver le temps de le faire, vous devriez trouver le temps de le faire. Commencez donc modestement. Mais puis-je faire une suggestion? Avant de commencer à prier, prenez un psaume et lisez-le lentement et attentivement, puis surlignez-le. Surlignez les mots qui font ressortir les attributs de Dieu. Méditez 15 minutes, 10 minutes, peu importe, sur ces attributs, puis mettez-vous à genoux et priez Dieu. Ensuite, vous pouvez dire Notre Père et commencer à lui rendre tous les mots que vous avez médités lorsque vous avez pris le temps de lire un psaume, de le méditer et d'aller prier. C'est ainsi que vous développez vos compétences en matière d'adoration. Dieu a inspiré David, pensez-y, à enregistrer ses pensées et à écrire ce qu'il méditait régulièrement, et il nous en fait cadeau pour que nous l'utilisions. Vous allez dans votre recueil de cantiques, page 58, Bless the Lord is the Ronald, oh, my soul. C'est un extrait du psaume 103. David se parle à lui-même à haute voix. Si vous allez là, il est dit, bénissez le Seigneur, ô mon âme, tout ce qui est en moi. Bénissez son saint nom. C'est la même chose que dans le recueil de cantiques. Verset 2, bénissez le Seigneur, ô mon âme. Au verset 22, vous le trouverez. Allons-y très vite. Psaume 103, allez-y. Je vais voir quelque chose d'intéressant ici. Comme David, nous devrions nous parler à nous-mêmes lorsque nous méditons. Il n'y a rien de mal à cela. Et même lorsque nous chantons, nous nous parlons à nous-mêmes, frères. Pensez-y. Certes, nous nous parlons les uns aux autres, mais nous nous parlons surtout à nous-mêmes lorsque nous lisons les paroles ou chantons les paroles du cantique, comme nous le ferons à la fin de l'office. Ensuite, il est dit qu'il donne, puis il y a des transitions, qui pardonne toutes vos iniquités, qui guérit toutes vos maladies. Il semble que David commence à nous parler, à un public jusqu'à ce qu'il lise. Il serait facile de le penser, mais ce mot, vos frères, ici dans le psaume, est à la deuxième personne du singulier. Relisons-le. Qui pardonne toutes tes iniquités? David. Qui guérit toutes vos maladies? Carl. Continuons à lire les versets suivants et voyons comment ce psaume, comme beaucoup d'autres, peut nous montrer comment ou sur quoi méditer. Verset 4. Qui rachète ta vie? David, il se parle à lui-même. De la destruction, qui te couronne, car, de bonté et de tendresse, qui rassasit ta bouche, David, de bonnes choses, de sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Alors, car, bénis le Seigneur. Va l'adorer. Trouve le temps de le faire. Mais tu sais que le roi David ne s'adresse pas encore directement à Dieu. Il y pense, il médite. Les psaumes sont une méditation ou une réflexion à haute voix sur tous les attributs, mais certains psaumes et certains hymnes s'adressent directement à Dieu, ce qui est une adoration directe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner la page du psaume 104 et de regarder dans votre recueil de cantiques, à la page 59, le psaume 104. Comment commence-t-il? Bénis l'Éternel, ô mon âme, ô Éternel mon Dieu. Ici, le roi David commence à adorer Dieu directement, immédiatement après. Il a rempli son esprit de pensée, et il est maintenant prêt à prier ou à chanter à Dieu avec la vérité qu'il vient de méditer. Il utilise son esprit, guidé par l'Esprit de Dieu, et utilise la vérité provenant des psaumes. La voici, tu es très grand, tu es revêtu d'honneur et de majesté, tu te couvres de lumière comme d'un voile. Tu te couvres de lumière comme d'un vêtement. Tu déploies les cieux comme un rideau. Regardez le verset 34. Ma méditation sera douce. C'est bien cela. La méditation sera douce. La méditation est une composante essentielle du développement de nos compétences en matière d'adoration. Et sur quoi pouvons-nous méditer? Les psaumes. Je viens de vous donner quelques exemples. Regardez votre hymne. Ô, bénissez et louez Dieu, ô mon âme, louez son nom. Éternel, mon Dieu, tu es très grand. Vous adorez Dieu. Mais je pourrais prendre n'importe quel psaume. Prenez l'hymne 58. Bénis le Seigneur éternel, ô mon âme. Bénis son nom saint et sacré. Et n'oublie pas tous les bienfaits qu'il accorde à ceux qui craignent son nom. Tu pardonnes toutes nos iniquités. Prenez simplement le mot « nos maladies », vous guérissez toutes nos maladies là où il est écrit « il », remplacez-le par « vous », c'est très simple. Vous pouvez passer de la louange de Dieu, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il a fait, à une adoration plus intime en vous adressant directement à lui. De la destruction, tu rachètes notre vie et tu nous couronnes de ton amour. La dernière strophe de la deuxième partie, et ces jours, encore une fois en lisant 58, et ces jours, mes jours sont comme l'herbe, mais de la mort, tu rachètes ma vie, notre vie, et tu nous couronnes de ton amour. C'est aussi facile que cela, mes frères, mais il faut s'entraîner à le faire encore et encore et encore. Frères et sœurs, nos hymnes comme bénissez le Seigneur, éternellement mon âme, ô, bénissez et louez Dieu, touche. Souvenez-vous du psaume 138, ils touchent et sont en accord avec les psaumes. Nos prières peuvent être utilisées d'une manière qui touche ou est conforme aux psaumes si nous les utilisons pour nous entraîner. Bien sûr, d'autres endroits de la Bible peuvent nous inspirer et nous aider, mais encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas d'endroit comme les psaumes. Comme le roi David, nous suivrons, sacrifierons, obéirons et servirons Dieu lorsque nous l'adorerons en priant seul ou en chantant des hymnes ensemble. Dans les deux cas, nous avons les psaumes pour nous aider, mes frères. Notre culte privé se révélera dans la manière dont nous vivons publiquement. La façon dont nous adorons Dieu ensemble en chantant se révélera dans notre façon de vivre publiquement. Les effets de la véritable adoration se répercutent dans tous les domaines de notre vie, à la maison, au travail, à l'école, dans nos mariages, dans nos relations, dans notre rôle de parents, dans tout cela. Jeunes gens, étudiez. Si vous apprenez à adorer Dieu et Dieu seul, vous éviterez tous les pièges de l'adoration d'autres choses et d'autres personnes que Dieu dans votre vie. Les gens ne verront peut-être pas comment nous adorons Dieu, mais ils en verront les effets. Et ce n'est pas tout, passons à Apocalypse 3. Encore deux versets pour terminer. Encore une fois, les gens ne verront peut-être pas comment vous et moi adorons Dieu dans notre temps de prière, en utilisant les outils qui nous ont été donnés, notre esprit et la vérité, et en le faisant dans la prière et ensemble, ici en chantant ou en chantant seul à la maison. Les gens ne le verront peut-être pas, ils n'en verront que les effets. Mais ce n'est pas tout, au verset 7, et à l'ange de l'église de Philadelphie, c'est vrai, voici ce que dit celui qui est saint et vrai, celui qui a la clé de David et les clés du culte, celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre, je connais tes œuvres et ton culte, j'ajouterai. Cela serait inclus dans nos œuvres. Voici, j'ai mis devant vous une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, parce que vous avez eu peu de force, que vous avez gardé ma parole et que vous n'avez pas renié mon nom. Voici, je ferai d'eux des membres de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ou qui se disent chrétiens, et qui ne le sont pas, mais qui mentent, qui sont hypocrites, dont les lèvres sont éloignées de Dieu. Leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils sauront que je t'ai aimé. Un jour, frère, les gens nous demanderont peut-être, comment en êtes-vous arrivé là? Vous êtes un être divin et je vais vous adorer. Nous leur dirons que nous avons suivi, sacrifié, obéi et servi le Dieu que nous adorons. Comment? Par la prière et le chant. Est-il surprenant que certains de nos proches adorent, suivent, se sacrifient et servent Dieu aussi bien que nous un jour? Apocalypse 22 jusqu'à la fin. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y avait 24 fois dans l'Apocalypse, un livre qui traite beaucoup de l'adoration. Voici comment l'Apocalypse se termine essentiellement, mes frères. Et c'est sur cela que je vais conclure. Verset 6, l'ange qui avait révélé à Jean toutes ces choses merveilleuses, majestueuses, terrifiantes, horribles, impressionnantes, me dit, ces paroles sont fidèles et vraies, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Comme c'est vrai, mes frères. Heureux celui qui observe les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui suit Dieu, qui sacrifie pour Dieu, qui obéit à Dieu et qui sert Dieu comme ce livre, mes frères, nous l'enseigne. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre Moi, Jean, j'ai vu ces choses et je les ai entendues. Et quand j'eus entendu et vu, je me prosternai aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Puis il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles du livre, qui suivent le sacrifice, obéissent et servent Dieu. Quelle est sa dernière déclaration ? Adorez Dieu.